Bienvenue dans Gros Câlin, le podcast qui interroge les manières dont on éduque nos enfants. Voici le premier épisode de Mémoire, une nouvelle série où je vous partage les enregistrements de mon journal de bord audio. Dans les deux premiers épisodes de Mémoire, je vous partage mes réflexions, mes introspections sur le désir d'un deuxième enfant, pendant les tentatives infructueuses, les suspicions de fausse couche, une première grossesse qui durera 2 mois, et tout le chamboulement suite à la perte de la grossesse début décembre. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes le 28 août 2023 et je viens d'écouter le premier épisode du journal vocal de Cédric de Papatriarca, qu'il a intitulé, il me semble, Journal de nouveau papa. J'ai beaucoup aimé, ça m'a bien inspiré et ça m'a carrément donné envie de faire quelque chose de similaire. Je pense pas que j'enregistrerai tous les jours, j'enregistrerai quand j'aurai quelque chose à dire et que je voudrais garder une trace. Je sais pas si je le diffuserai publiquement ou si je le garderai en privé. On verra bien à un moment donné si j'ai une illumination et si je me décide sur cette question. Dans tous les cas, voilà, je trouve que l'intention de garder des traces sur cette aventure est vraiment une bonne idée. Je l'ai pas fait pour la première aventure, la grossesse de Charlie. Et je me dis que là, on n'est même pas à l'étape grossesse encore. On est juste dans le désir du deuxième enfant et dans le début des essais, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vraiment très tôt. Mais je me dis, ouais, pourquoi pas, surtout qu'il s'est passé. Il s'est passé plusieurs choses, donc je pense que c'est pas plus mal de commencer maintenant et que je puisse un peu vider les réflexions que je me suis faites, les questionnements que j'ai pu avoir. Ce sera intéressant pour cette première entrée dans le journal vocal dont je ne sais toujours pas comment je vais l'appeler d'ailleurs. Je me suis pas posé la question. Mais dans un premier temps, c'est vrai que je trouve intéressant de questionner cette histoire de désir de deuxième enfant. Parce que finalement, quand on prend le temps d'y réfléchir, on se rend compte que ça va pas forcément de soi. Pourquoi est-ce qu'on... Alors de base, on pourrait se demander déjà pourquoi est-ce qu'on veut faire des enfants. Mais lorsque l'on a déjà un enfant, pourquoi est-ce qu'on en voudrait d'autres? Et je comprends que certaines personnes puissent avoir la sensation qu'il y a comme un manque, comme un vide, s'il n'y avait pas ce deuxième enfant. C'est pas du tout la sensation que j'ai personnellement. J'ai l'impression que notre famille actuellement, avec Julie et Charlie, ça me convient très bien. J'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, personnellement, je me sens heureux comme ça. J'espère que Julie aussi est déjà heureuse de ce à quoi ressemble notre famille. Et j'ai pas l'impression de ressentir un manque. Ça serait intéressant que tu poses la question à Julie, d'ailleurs. J'ai pas l'impression de ressentir un manque. Comme s'il manquait un enfant, comme s'il manquait ce deuxième enfant pour que l'on soit vraiment heureux, j'ai pas l'impression qu'il y a un trou à remplir, j'ai pas l'impression qu'il y a un vide. Donc finalement, s'il y a pas de vide, s'il y a pas de manque, pourquoi il y a ce désir de deuxième enfant? Et quand je me questionne par rapport à tout ça, c'est vrai que j'ai surtout l'impression que c'est un modèle que j'ai toujours connu parce que je viens moi-même d'une famille de deux enfants. Donc, comme j'ai eu un petit frère, j'ai eu le sentiment que connaître le fait d'avoir un frère ou une sœur, ça me semble important dans une vie, même si, quand on y réfléchit 2 secondes, on se rend bien compte que c'est pas du tout une vérité universelle. C'est toujours l'histoire de les liens du sang ne font pas forcément les liens du cœur. Donc oui, sur le papier, c'est beau d'avoir des frères ou des sœurs. Mais dans la pratique, le lien du sang n'impose à personne d'avoir de réelles affinités, d'avoir de grands liens affectifs. Donc, je sais que ouais, ce désir d'avoir des enfants qui seraient frères et sœurs, ça ne les obligera pas à s'aimer. Il peut y avoir évidemment des hauts et des bas tout au long de leur vie. Donc, ça peut pas être une raison suffisante, entre guillemets. Et encore faut-il se poser la question de est-ce qu'il est nécessaire d'avoir grandes justifications et de raisons légitimes pour vouloir faire des enfants. Il y a, je pense qu'il y a quand même, faut pas se leurrer, une grande part d'animalité dans tout ça. Ça fait partie de notre condition animale, en fait, de chercher à se reproduire, même s'il y a sans doute une grande part d'inconscient là-dedans. On aura beau chercher à raisonner et à chercher à mettre du sens, il y a très sans doute là-dedans une grande part d'instinct, quand même, que l'on ne peut pas forcément contrôler. Ça me fait penser qu'il y a quelque temps, j'étais tombé sur des vidéos de psychologues qui disaient que quand on choisit quelque chose, quand on prend une décision, on a l'impression qu'on l'a mûrement réfléchi. Et apparemment, en réalité, alors j'ai pas vérifié toutes les sources du truc et les études qui sont liées à cette affirmation, mais apparemment, ce serait l'inverse, en fait. Notre cerveau choisit pour nous, presque. Notre esprit, notre cerveau choisit. Parce que bon, de toute manière, le cerveau adore les chemins les plus courts. Donc, quand il faut faire un choix, il choisit en premier temps et ensuite, c'est notre esprit qui nous raconte une histoire pour justifier le choix qu'on vient de faire. Alors que si on se pose la question, enfin moi personnellement, la première chose que je me dis, c'est que non, en premier temps, je réfléchis. En premier temps, je pèse les pour et les contre et ensuite je prends ma décision. Apparemment, ça ne passerait pas comme ça. Alors, est-ce que ça peut s'appliquer sur toutes les décisions que l'on peut prendre dans notre vie ou seulement les choix un peu anodins? Je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne sur la question. Mais dans tous les cas, il y a ce côté où biologiquement, physiologiquement, chimiquement, de la chimie cérébrale et tout ça, enfin, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle de la pensée rationnelle. Donc, je pense évidemment que dans ce désir d'enfanter encore, il y a une grande part d'inexplicable qui vient de l'instinct animal, quelque chose comme ça, quoi. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas l'impression que on serait plus heureux avec un deuxième enfant. J'ai pas l'impression d'avoir ce besoin de deuxième enfant pour être plus heureux. Je pense que l'on est déjà très heureux et qu'on n'a pas à mettre ce poids, d'ailleurs, on n'a pas à mettre ce poids de notre bonheur sur un enfant, que ce soit le premier enfant ou le deuxième. Je pense que je vais en parler avec Julie pour savoir si elle le ressent elle aussi comme ça. Mais je crois qu'on en avait déjà un peu parlé et elle aussi n'a pas cette idée que on serait plus heureux avec un deuxième enfant que si on veut accéder au bonheur, il faudrait que l'on ait ce deuxième enfant. Mais c'est vrai que c'est une question que je trouve intéressante, profonde, hein, de se poser vraiment la question. Si on n'a pas l'impression que notre bonheur dépend de l'enfant, pourquoi est-ce qu'on ferait? Pourquoi est-ce qu'il y a ce désir alors? Et je crois que tout ce que je suis en train de faire là depuis que je suis enregistre, c'est que je tourne autour du pot et que en fait je sais pas moi-même finalement. Je sais pas moi-même pourquoi j'ai ce désir-là, si ce n'est cette part animale et cette part de schéma que j'ai vécu moi-même enfant. Après, il y a ce côté de une forme de fruit de notre amour, Julie et moi, mais c'est pareil, il y a énormément de façons différentes de pouvoir créer ces fruits de l'amour sans passer par le fait d'enfanter. Donc, ça me pose quand même plein de questions. Mais toujours est-il que ce désir est là, ce désir, il est là depuis même avant la naissance de Charlie, je pense. Je pense que je me suis toujours projeté dans cette vision d'avoir plusieurs enfants, en tout cas deux, peut-être pas plus, mais en tout cas, je me suis pas projeté avec un enfant unique, ça c'est sûr. Je n'ai pas pour autant l'impression que les enfants uniques seraient moins heureux que les enfants qui ont des frères et des sœurs, mais je sais pas. Je pense que, voilà, comme je le dis, je passe mon temps à me répéter, c'est super intéressant. Il y a cette part de schéma que j'ai connu enfant qui résonne et qui est là. Donc, je peux pas forcément le nier. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je lutte contre? Je pense pas. Toujours est-il que ce désir est là, qu'il est là depuis longtemps. J'avais aussi cette pression de l'âge, du temps. J'en ai déjà parlé dans un podcast de Gros Câlin où on avait un peu parlé du début de la grossesse de Charlie et j'avais dit que quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, je me projetais déjà dans cette idée de devenir parent et tout et que j'avais ce souhait en fait d'être un parent jeune quoi. Presque si j'étais devenu papa par accident à 16 ans, je l'aurais vécu positivement, voire très positivement. En tout cas, dans ma tête, je donnais une force positive au fait d'être parent très tôt. Ce qui n'a, encore une fois, aucune raison logique et il y a aucune justification derrière, quoi. Je sais pas l'expliquer, mis à part que si vraiment je devrais faire un peu de masturbation cérébrale pour essayer de détricoter le truc, le seul truc que je peux voir, c'est qu'en fait, mon père est relativement âgé. En tout cas, il a toujours été plus âgé que les parents de mes camarades. Donc, disons que, ouais, mon père, il a plutôt l'âge des grands-parents de mes camarades, quoi. Donc, comme s'il y avait une génération qui a sauté. Mais, enfin, d'ailleurs, c'est complètement le cas, vu que mon père a 20 ans de plus que ma mère. Donc, est-ce que ça vient de là? Voilà. Est-ce que ça vient juste de là, d'une sorte de frustration de l'enfance? Je veux pas reproduire ce que j'ai vécu avec mon père, alors que quand j'ai réfléchi de manière consciente, j'ai pas l'impression du tout d'avoir été frustré par l'âge de mon père. Ça ne m'a pas, j'ai pas l'impression d'avoir vécu des manques à cause de ça. Je l'ai pas vécu comme une tare, comme un défaut. Ça m'allait très bien comme ça en soi. Donc, mais je sais que j'ai pas envie de ça. Je sais que j'ai pas envie d'être un papa, un jeune papa, entre guillemets. À 40 ou 50 balais, quoi. Donc, il y a quand même la question de l'extrême, hein, parce que c'est pas parce que tu veux pas être un jeune papa de 45 ans que tu dois être un jeune papa de 16 ans, quoi. Mais je sais pas pourquoi, mais je me suis mis dans cet extrême-là dans ma tête. Toujours est-il que ça n'est pas arrivé, vu que mon premier enfant, je l'ai eu à 28 ans. Et je me dis, aujourd'hui, c'est encore autre chose, parce qu'aujourd'hui, donc, j'ai 32 ans, j'en aurai bientôt 33. Et je suis loin, je suis loin de l'image idéale que je me faisais du papa que je serais avec tant nombre d'enfants, tel nombre d'enfants à tel âge. Quand on a eu Charlie, je crois que j'ai dit à plusieurs reprises à Julie que si on devait avoir un deuxième enfant, j'aimerais bien que ce soit au maximum à mes 30 ans. J'en ai 32. Donc ça, déjà, c'est passé. Mais du coup, ouais, j'ai pas pour autant essayé de lui mettre la pression là-dessus en lui disant hey, on a bientôt 30 ans, donc vite, vite, quoi. Vraiment, c'était pas. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit et vraiment, je voulais pas ça. Et j'ai carrément lâché prise très facilement avec cette idée. Hein. Parce que quand le calendrier a avancé, à aucun moment j'étais en mode déçu de toujours pas avoir de deuxième enfant, alors que ça y est, j'ai 30 ans, j'ai 31, j'ai 32. Voilà, j'ai lâché prise sur cette question, et ça arrivera ou ça n'arrivera pas, j'en sais rien, mais si ça arrive, bah, ça arrivera quand ça arrivera. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, du coup, même si j'étais très bien avant Julie pour deuxième enfant, bah, ça a été un peu aussi le cas pour le premier. Hein. Pour Charlie, j'étais vachement prêt plus tôt, vu que à 16 ans ça m'allait, tu vois. Donc, clairement, oui, j'étais prêt plus tôt. Pour le deuxième, j'étais prêt plus tôt aussi. Et Julie, ben là, voilà, ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 3-4 mois où elle dit vraiment qu'elle est prête et tout. Et c'est vraiment fin juin, je crois. Fin juin, début juillet, où elle a dit ça y est, c'est bon, on essaye. Donc, on a commencé à essayer. Il y a eu dès le premier mois d'essai, entre guillemets, officiel, il y a eu un retard de règles d'une semaine où on s'est emballé forcément. Et finalement, bah, la grossesse n'a pas duré. Il y a eu fausse couche, entre guillemets, précoce, vu que ça arrivait vraiment une semaine après le retard de règles. Je sais pas, est-ce qu'on se retient à vivre ce sentiment, à vivre cette émotion? Je sais pas si on se retient. Ou si on arrive à le traverser en douceur, entre guillemets, autant qu'on puisse traverser ça en douceur, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas l'impression de vivre une tristesse. Il y a encore une fois tout un côté de raisonnement où on se dit oui, bon, de toute façon, si la grossesse n'a pas duré, c'est qu'il y avait une bonne raison à ça. Le corps fait bien les choses, certainement que l'embryon n'était pas viable, et etc., etc. Voilà. On va chercher toutes les raisons possibles et imaginables pour calmer un peu notre cerveau. Je sais pas si c'est ça qui fait qu'on le vive bien, entre guillemets. Pour le moment, en tout cas, on s'est pas pris de revers de bâton. Ça fait que 3 semaines, je crois. Donc, ça a encore le temps de décanter avant qu'on se prenne une baffe, Mais du coup, ouais, pour le moment, j'ai l'impression que ça va, même si, bah, notamment, je parle de cette envie de commencer ce journal audio parce que j'ai écouté le premier épisode du journal de Cédric. Je me souviens que ça faisait, je sais pas, ça faisait pas très longtemps, ça faisait que quelques jours, du coup, qu'il y avait eu cette fausse couche. Et un soir, je vois dans mes stories, je vois la story de Cédric où il partage l'annonce. Ils attendent leur deuxième enfant et ils partagent un, comment on appelle ça, l'audio de l'échographie. Donc on entend le cœur battre. Et il n'y avait rien de plus. C'était sur un fond noir avec le cœur qui bat du bébé. Et je me souviens que j'ai ressenti, j'allais dire de la colère, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, de la jalousie. Enfin, pas des émotions positives, quoi. Alors clairement, je me suis pas enjaillé pour Cédric et Noëlla sur le coup, alors que c'est clairement une bonne nouvelle et que c'est très chouette pour eux. Donc, je sais que je suis tout à fait en droit de vivre cette jalousie et tout, mais toujours est-il que voilà, j'ai ressenti des émotions négatives sur le moment et ça m'a remis sur, voilà, ça m'a rappelé le fait que nous, ben, y a eu cette fausse couche. Et je sais pas pourquoi ça ne me le faisait pas quand je voyais, je sais pas, une femme enceinte ou des choses comme ça. Je le vivais pas trop comme ça. Une semaine avant, je crois, il y avait une connaissance qui avait eu son bébé. Je savais même pas qu'elle était enceinte et tout, donc j'ai appris qu'elle avait eu son deuxième enfant aussi. Et c'est pareil, ça m'avait un peu embêté, mais pas autant que qu'avec Cédric, parce que j'ai eu l'impression que l'échographie est un peu l'étape qu'on aurait dû faire s'il n'y avait pas eu la fausse couche. C'était l'étape qui arriverait assez vite. Après, du coup, j'ai l'impression que cette étape, on l'a ratée vraiment de peu. Peut-être, je ne sais pas si j'aurais eu vécu la même chose si ça avait été une annonce un peu plus classique en montrant une silhouette avec le ventre rond et tout, tu vois. Je ne sais pas si j'aurais vécu pareil. Mais j'avais l'impression que le fait que voilà soit vraiment l'échographie et tout, ça me perturbe plus. Enfin bref, tout ça pour dire que ça, c'était pas simple sur le moment et qu'aujourd'hui, eh bien, on avance malgré tout. À côté de ça, tu as des personnes qui essayent depuis des années d'avoir leur premier enfant et qui ne l'ont toujours pas. Donc nous, on a déjà notre fille. On devrait s'estimer heureux et donc je devrais arrêter de me vénérer auprès des personnes qui ont leur deuxième enfant. D'autant plus qu'on ne sait pas à quel point ils ont galéré ou pas. Donc il n'y a pas de jalousie à avoir, mais hein, qu'est-ce que j'y peux des émotions que je ressens? Il y a juste, voilà, c'est juste à moi de ne pas les triturer pour que ça devienne des gros trucs insurmontables et bien relous. Donc, bref, passons. Il me semble qu'on approche des jours où Julie devrait avoir ses règles pour le cycle en cours. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je sais que faudrait pas qu'on reste trop dans l'attente parce que si à chaque mois on est dans l'attente des règles et tout de voir un test positif et tout ça, enfin ça va vraiment être prise de tête. Donc j'espère qu'on arrivera à prendre les choses avec légèreté peu importe ce qui se passe. Et puis on verra bien. Évidemment, ce qui m'inquiète aussi, c'est que si jamais tout va bien et que là, dans les prochains jours, on se retrouve avec un test positif. Je ne veux pas retomber comme avec la première grossesse avec Charlie, où je me suis retenu peut-être les 3 voire 6 premiers mois. Je me suis retenu vraiment d'éprouver de la joie dans ce truc de pas devoir s'emballer trop vite, etc. Parce que je ne savais pas que ne pas annoncer la grossesse dans les 3 premiers mois, ce n'était pas seulement par tradition, mais c'était parce que les 3 premiers mois, il y a un risque, entre guillemets, important de fausse couche. Donc, les 3 premiers mois de grossesse, tu peux avoir une sorte d'épée Damoclès. Quand je l'ai appris, ça m'a fait un coup au moral assez violent et j'étais dans cette crainte constante, en fait, de la fausse couche potentielle. J'ai lutté, hein, j'ai vraiment lutté avec ce truc de me dire non mais ça sert à rien de te dire il faut pas t'emballer, ça sert à rien de te dire il faut pas que je m'engage émotionnellement tout de suite. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, que tu le fasses ou pas, que tu t'emballes ou pas, si la fausse couche arrive dans les 3 premiers mois, dans tous les cas, dans tous les cas, ce sera difficile. Donc, autant vivre positivement et dans la joie tous les jours que pourra durer la grossesse, même si elle ne dure que quelques semaines ou quelques mois. Autant que ça se passe dans la joie, parce que si l'arrivée, ça doit mal se terminer, entre guillemets, de toute façon, ce sera pas facile. Donc, autant profiter du moment présent. J'avais beau me dire ça, j'avais beau lutter contre ce truc, j'ai le sentiment que je me suis pas investi émotionnellement autant que j'aurais pu l'être au départ. Donc, je veux vraiment pas revivre ça, je veux vraiment pas recommencer ce schéma-là avec cette deuxième grossesse, quand et si elle arrivera. Mais on verra bien. Je peux pas, encore une fois, je peux pas contrôler mes émotions, je peux pas les empêcher ni rien. Donc, on verra bien comment je le vivrai. Mais j'espère vraiment que j'arriverai à vivre cette joie et à l'exprimer et à ne pas la retenir. Donc ça, on verra bien. On n'y est pas encore. À l'heure actuelle, on est toujours dans le désir de ce deuxième enfant. On n'est pas encore dans l'étape de grossesse, donc on verra bien dans les jours qui suivent comment tout ça avance. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre. Demain, ça fera donc 2 mois depuis le premier enregistrement de ce journal audio. Je suis vraiment un exemple régularité avec ce journal, n'est-ce pas? 2 enregistrements en 2 mois, c'est nickel. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que fin septembre, on a eu un nouveau soupçon de fausse couche précoce. Julie a eu des règles très abondantes et très douloureuses et surtout qui ont duré 9 jours. C'était très étrange, ça n'arrive jamais habituellement. Ça a été beaucoup plus difficile que la première suspicion de fausse couche précoce fin juillet. Moralement, ça a été difficile pour Julie. Elle a eu besoin de faire une pause dans nos essais. Le temps de pouvoir prendre un rendez-vous avec une sage-femme et pouvoir parler de tout ça, avoir un avis professionnel, un retour professionnel par rapport à ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, avoir un regard extérieur. Donc, je pense que de toute manière, enfin, pause ou pas pause, avec tout ça, il n'y avait même plus l'envie. Il n'y avait même plus de libido, quoi. Ça paraît logique. On a donc vu la sage-femme, on a beaucoup discuté. Je crois que ça a duré plus d'une heure, l'entrevue où elle nous a posé plein de questions, on a beaucoup parlé. Et ce qui en est ressorti, et ce qui a été peut-être la partie la plus difficile pour Julie, c'est qu'effectivement, enfin, personnellement, je m'y attendais un peu, mais effectivement, les 2 épisodes de fausse couche, ce ne sont que des suspicions. On n'a à aucun moment des preuves, étant donné qu'on n'a jamais eu de test de grossesse positif ou d'échographie. Il y avait juste un retard de règles qui ensuite s'en est suivi de règles très bizarres que Juline ne vit pas du tout de cette manière habituellement, même si elle a des règles douloureuses et des règles abondantes, c'est jamais à ce point-là. Donc c'est pour ça que elle le ressentait comme tel, et je pense que c'est important d'écouter son intuition et d'écouter ce qu'elle ressent dans son corps. Alors oui, d'un point de vue médical, on n'a aucune preuve qu'il s'agissait bien de fausse couche, mais elle le ressent comme ça, d'autant plus que même si on n'a pas eu le temps d'avoir des tests positifs, elle avait quand même ressenti comme des symptômes de tout début de grossesse. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences, et notamment que ces 2 épisodes de règles très très bizarres interviennent pile au moment où on commence à faire des essais pour avoir ce deuxième bébé, alors que depuis toutes ces années où elle est menstruée, ben Julie n'a jamais eu d'épisodes de règles comme ça. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences malgré tout, et je pense que c'est aussi dans une optique, une perspective d'être optimiste, la sage-femme n'a pas voulu mettre le mot fausse couche sur tout ça et a préféré simplement parler de règles abondantes. Alors c'est vrai que ça fait bizarre de recevoir un tel diagnostic. Bon, surtout que voilà, Julie, elle connaît les règles abondantes. Et te dire que ce n'est que des règles abondantes, bon, je pense que ça fait quand même un choc à Julie. Enfin, il y a un côté vraiment, je veux pas dire que la sage-femme a été dure, parce qu'au contraire, je pense qu'elle a été vraiment bienveillante, et c'était vraiment dans l'intention d'être dans une démarche plus positive vis-à-vis de tout ça. Mais Au vu de tous les ressentis de Julie, je pense que c'est quand même dur et ça ressemble à presque du gaslighting où on va essayer de, enfin essayer non, c'est pas une tentative de le faire, mais ça peut ressembler à quelqu'un qui nierait la perception de la réalité de d'une personne. Donc, ce qui est sûr, c'est que de toute manière, on n'a aucun moyen de pouvoir vérifier si c'était des fausses couches ou pas. Donc, est-ce que c'est important de fixer notre idée là-dessus et de se dire si, si, c'était des fausses couches, quoi qu'il arrive. Je suis pas sûr que ça apporte quoi que ce soit de le se dire. Donc, bon, s'en est suivi qu'elle a proposé à Julie de faire plein d'examens, notamment une échographie pelvienne, un IRM, parce que ces deux épisodes de règles très particulières pourraient être des symptômes d'endométriose. Donc, on va essayer de vérifier tout ça pour confirmer ou non ce diagnostic. C'est pareil, l'endométriose, Julie, elle soupçonne d'avoir de l'endométriose depuis longtemps. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais on n'avait jamais fait de vérification médicale pour ça. S'il s'agit bien d'endométriose, la sage-femme voulait se montrer réconfortante en disant que voilà, c'est pas parce qu'on a de l'endométriose que ça implique systématiquement de l'infertilité. Et effectivement, si Julie a de l'endométriose, ben on a quand même réussi à avoir Charlie, donc ce n'est pas une fatalité en soi, même si ça peut compliquer les choses. Et surtout, ça, c'est ce que j'essaie de me dire depuis le début et que j'en parle avec Julie aussi, c'est que ça fait que 4 mois d'essai, finalement. Ça fait que 4 mois d'essai et on est sans doute trop pressé, on est sans doute trop impatient. Je pense qu'on a été un peu matrixé de notre première expérience de grossesse avec Charlie, vu que c'est arrivé vraiment du premier coup. On n'a pas eu cette attente à faire des essais pendant des mois avant que ça fonctionne, entre guillemets. Donc je pense que on l'a pris un peu pour acquis. Et du coup, là, ça nous fait très bizarre, même si ce n'est que 4 mois, c'est rien. 4 mois, dont un mois où on s'est dit qu'on faisait une pause après l'expérience de fin septembre. Et puis aussi 4 mois entre guillemets, mais 4 mois d'essai entre guillemets, mais en fait c'est pas des mois d'essai où on mettait toutes nos chances de notre côté. Voilà, on n'avait pas des rapports tous les jours, donc voilà, on n'a pas donné la max entre guillemets, on va dire. Et en même temps, moi j'ai vraiment pas du tout envie qu'on se force à avoir un rythme effréné juste dans le but de faire un enfant. Il faut quand même que le désir soit là. Et que ce soit pas juste une question mécanique. Donc, enfin, en tout cas, c'est important pour moi et j'espère que c'est aussi important pour Julie. Mais je crois que oui, quand on en parle, en tout cas, il me semble. Donc voilà, je veux pas tomber dans cette machinerie à se dire, allez, il faut qu'on fasse maintenant pour vraiment mettre toutes nos chances de notre côté. Il y avait aussi le contexte qui était particulier, qui faisait que, en étant hébergé chez mon père, en faisant le coup dodo avec Julie et Charlie, on n'avait pas de très grandes fenêtres de disponibilité pour ça. En tout cas, enfin, on en avait suffisamment entre guillemets pour je sais pas comment dire ça, pour le quotidien, mais dans le but vraiment de faire un maximum d'essais pour faire un bébé, effectivement, c'est pas pareil. Et là, on a arrêté le cododo il y a presque un mois maintenant, parce que on est dans une chambre qui est très humide et on avait l'impression que Charlie accumulait les rhumes qui ne passaient pas, et puis on n'arrivait pas à désencombrer son nez et tout. Enfin, c'était horrible. Il y avait vraiment des problèmes respiratoires. Et tous les traitements qu'on faisait, enfin, tous les lavages de nez quotidiens, ça n'aidait pas. Donc, on s'est dit que ça venait peut-être de la trop grosse humidité de la chambre. Et on a essayé de la changer de chambre pour la mettre dans la chambre de la maison la plus saine. Elle a accepté. Ça s'est bien passé finalement. Et effectivement, dès les premiers jours, on a vu de l'amélioration. Là, elle est de nouveau enrhumée, donc est-ce que c'est juste parce qu'elle a chopé un virus ou est-ce que c'est reparti pour la même problématique? On va voir. J'espère que c'est juste passager et qu'effectivement la chambre a aidé à avoir un environnement plus sain. On va pouvoir vérifier ça dans les prochains jours. Toujours est-il que du coup, niveau contexte, a priori, ça s'améliore de ce côté-là et donc on va pouvoir faire des essais de manière plus fréquente. Au niveau des examens, elle a juste fait l'échographie pour le moment, qui n'a rien montré de particulier, pas de signe d'endométriose. Une amie m'a expliqué qu'au niveau de l'endométriose, il y avait finalement deux grandes formes d'endométriose. L'endométriose avec adénomyose, si je ne me trompe pas de nom, où l'endomètre, du coup, est vraiment problématique dans la zone de l'utérus. Et quand on parle d'endométriose, ben c'est adénomyose, potentiellement adénomyose, donc au niveau de l'utérus, mais aussi à l'extérieur de l'utérus, qui touchait les autres organes. Et du coup, il peut y avoir endométriose avec ou sans adénomyose. Donc endométriose avec ou sans l'utérus de toucher. Là, l'échographie, en l'occurrence, elle était vraiment sur l'utérus. Donc s'il y avait de l'endométriose ailleurs que l'utérus, ben, l'échographie ne permet pas de le voir. Julie a un retard de règles qui ressemble un peu à ce qui s'était passé fin juillet. On est pratiquement à une semaine de retard. Je crois dans 2 ou 3 jours, ça fera une semaine. Donc on s'emballe pas. On n'a même pas envie de faire de test pour le moment. On s'est dit qu'on allait attendre que ça fasse une semaine pour faire un test. Donc surtout qu'on a remarqué avec Clou, là, le suivi de cycle, on a remarqué que depuis quelque temps, tous les trimestres, elle avait un cycle qui était plus long que d'habitude. Et là, effectivement, ça tombe sur les fameux 3 mois. Donc, à voir si c'est juste un cycle plus long ou si c'est un début de grossesse. Donc, on va voir ça dans les prochains jours. Mais du coup, on est surtout dans l'attente de l'IRM pour vérifier s'il y a bien des traces d'endométriose ou pas. Là, Julie, en fait, elle a surtout besoin d'avoir des réponses. Et je crois que presque elle préférait qu'on lui dise effectivement il y a de l'endométriose ou effectivement il y a du SOPK. En tout cas, il y a quelque chose. Plutôt qu'on lui dise mais non, il n'y a rien. Et du coup, on ne sait pas pourquoi c'est un peu plus long. Mais encore une fois, voilà, il s'agit que de 4 mois. Dont vraiment 3 mois où on a fait des essais régulièrement, mais pas non plus de manière hyper fréquente. Donc, je pense aussi qu'il faut prendre patience. Comme je le savais et comme nous l'a répété la sage-femme, effectivement, on peut parler de problèmes d'infertilité au bout de 1 à 2 ans d'essais infructueux et on est encore loin de ça. Donc il faut essayer de rester positif et d'être patient et de pas paniquer. Puis il y a le fameux truc, on se dit, le fameux cliché de ça fonctionne quand on n'y pense plus, etc. Et en même temps, oui, moi j'ai vraiment pas envie, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment pas envie de tomber dans un truc automatique et machinal. Où on fait les choses vraiment juste pour cette grossesse et on fait tout de manière planifiée et tout. Enfin, j'ai pas envie de perdre l'aspect désir et plaisir qui me semble quand même essentiel et même pour cette grossesse, je préfère qu'elle arrive grâce au désir et au plaisir plutôt qu'une machinerie bien montée. Même si évidemment, s'il y a des problèmes de fertilité et qu'il faut passer par une PMA. Si on a toujours ce désir de deuxième enfant, ben, je pense qu'on passera par là. On verra bien ce que nous réserve l'avenir à ce niveau-là. En attendant, on essaie de se vider le cerveau et d'être plus léger et on verra bien ce qui se passera. Nous sommes le lundi 30 octobre et ça y est, Julie est enceinte. C'est complètement hallucinant cette histoire. Là, pour le coup, toute cette histoire de ça arrive quand on n'y pense pas, etc. Que d'un côté, j'ai toujours trouvé que c'était pas idiot comme message. On est d'accord. C'est évident que c'est mieux d'avancer dans ce projet sans avoir de stress, d'anxiété, de préoccupation. Mais c'est bien beau de le dire. C'est bien beau de dire à quelqu'un d'arrêter de penser à quelque chose. C'est bien beau de dire à quelqu'un d'essayer de se calmer, il suffit pas de le dire. Toujours est-il que le mois où on décide de faire une pause, les 2 suspicions de fausse couche qui ont laissé des coups au moral assez importants, le mois où on se dit, bon, on va se laisser ce mois-ci pour faire une pause, discuter avec une sage-femme, etc., on fait quand même l'amour une fois ce mois-ci, malgré la pause qu'on s'était donnée, mais vraiment pas dans cette optique d'essayer de faire un enfant. On n'a même pas réfléchi au niveau de la date possible de violation, etc. C'est juste à ce moment-là, on avait eu envie de faire l'amour malgré ce contexte de pause et tout. C'est juste, voilà, c'était juste par désir pur et simple. On l'a fait qu'une seule fois et elle tombe enceinte. Alors que les mois précédents, alors c'est sûr, hein, ça fait pas 6 mois, ça fait pas 1 an, ça fait pas 2 ans qu'on est sur des essais infructueux d'avoir ce deuxième enfant. Mais c'est quand même fou. C'est quand même fou de se dire que sur la période où vraiment on a essayé en réfléchissant vraiment, en essayant vraiment de mettre toutes les chances de notre côté en mode la date d'ovulation, etc., etc. Et ça ne fonctionne pas. Et là, on fait qu'une seule fois et elle tombe enceinte.
Maintenant, le tout, c'est d'essayer de rester positif, de garder son calme, surtout de ne pas trop penser au risque de fausse couche. Je veux vraiment pas retomber dans le schéma dans lequel j'étais à la première grossesse avec Charlie, où les deux premiers trimestres ont été assez compliqués. J'arrivais pas trop à m'ancrer dans ce début de grossesse, j'arrivais pas à écouter vraiment mes émotions et mes sentiments, à accueillir la bonne nouvelle de cette grossesse. En fait, j'étais vraiment dans la projection de c'est possible qu'il y ait une fausse couche. Et cette possibilité, cette crainte, cette peur, vraiment bousillé ma façon de vivre ce début de grossesse, je pense. Donc, je veux vraiment pas revivre ça, malgré les deux dernières expériences de suspicion de fausse couche qu'on a eues et qui vont quand même nous hanter quelque temps, je pense. On pourra pas se forcer à fermer notre esprit à ça. Mais il doit y avoir sûrement un entre-deux entre le fait de s'autoriser à vivre pleinement cette grossesse et vivre le moment présent, en fait, tout simplement. Peu importe quelle sera la finalité de cette grossesse, si elle se termine dans la joie ou si elle se termine dans la tristesse, toujours est-il que le moment présent mérite sûrement d'être vécu pleinement et que ce n'est pas la fin de cette grossesse qui doit dire comment on doit la vivre. Alors, hein, ça rejoint ce que je disais au début, hein, c'est bien beau de se dire tout ça, maintenant il faut réussir à l'incarner. On va voir. J'espère vraiment que je vais réussir. Là, la difficulté, c'est que Julie aussi a cette crainte-là. Du coup, tout de suite, elle m'a dit, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler autour de nous. J'ai pas envie que ça se sache tout de suite. Je sais pas combien de temps il lui faudra pour avant de vouloir en parler. Je trouve ça, je comprends totalement qu'elle ait ce besoin de garder le secret pour le moment, une façon de se protéger. Mais en même temps, si un malheur devait arriver, que l'on en parle ou qu'on n'en parle pas, ça sera difficile. Je pense que c'est une erreur de se dire que si on n'en parle pas, ce sera plus facile à vivre. Mais toujours est-il que je comprends qu'elle ait ce besoin-là et je le respecte. Mais j'espère que ça ne va pas nous empêcher de vraiment vivre le moment présent. On verra bien. On verra bien où va aller cette grossesse. Dans tous les cas, je veux vraiment profiter du moment présent, peu importe quelle sera la destination. Nous sommes le 10 novembre. On n'a toujours pas annoncé la grossesse pour le moment. Il y a d'ailleurs une ambiance un peu bizarre où Julie avait un rendez-vous chez le médecin, notamment par rapport à toutes les analyses qui avaient été faites en même temps que la prise de sang pour confirmer la grossesse. Elle voulait récupérer une déclaration de grossesse à transmettre notamment à l'URSSAF. Le médecin lui a dit que cette déclaration ne se faisait qu'à partir du moment de l'échographie de datation. Ce qui, malgré moi, m'a remis dans cette pression de, c'est un peu une date butoir pour vraiment confirmer que la grossesse est vraiment véritablement en cours et que presque en attendant cette échographie, ben on est sûr de rien. Et évidemment, la vie fait les choses bien. C'est toujours dans ces moments-là où tu entends des récits de grossesse avec œuf clair, où au moment de l'échographie de datation, ben on se rend compte qu'en fait il n'y a pas de fœtus. Que voilà ce fameux truc de l'œuf clair où ma mère m'en avait d'ailleurs pas mal parlé vu qu'elle a vécu 3 fois. Et dans sa tête, elle pensait que un œuf clair, c'était un œuf qui n'avait pas été fécondé, enfin comme si c'était un ovule qui n'avait pas été fécondé par un spermatozoïde. Alors que c'est pas tout à fait le cas, il y a bien eu une fécondation, mais l'embryon ne se forme pas correctement, les divisions cellulaires s'arrêtent à un certain stade. Normalement, une fois que la fécondation est faite, les cellules se divisent de plus en plus jusqu'à former un embryon, puis un fœtus, etc. Et dans le cas de l'œuf clair, bah, ça s'est arrêté à un certain stade et ça n'évolue plus. J'entends des récits d'échographie où on se rend compte que, bah, on n'entend pas le cœur du bébé. J'entends des récits de grossesse où, au bout de 2 ou 3 mois, on se rend compte qu'il y a une toxoplasmose et donc le bébé a peu de chances d'être viable, donc il va falloir réfléchir à faire
un avortement médicamenteux et que cette décision doit revenir aux parents, que c'est même pas le médecin qui décide de ce qu'il faut faire, c'est aux parents de choisir si on poursuit la grossesse malgré tout et on voit ce que ça donne ou est-ce qu'on ne le fait pas. Donc bref, voilà, comme pour nourrir cette idée que tant qu'on n'a pas passé cette date, tant qu'on n'a pas passé cette échographie, il n'y a rien d'officiel. Et le fait de la garder secrète, bah ça nourrit aussi ce truc-là. Donc depuis le début, je raconte que je veux pas revivre la première grossesse, enfin en tout cas, je veux pas revivre le début de première grossesse, où je m'étais pas complètement investi dans mes émotions et dans la célébration de ce que c'était, parce que j'avais trop peur de la fausse couche. Et en fait, c'est pas pareil, c'est pas une peur ou presque une épée de Damoclès comme je pouvais le ressentir avec la première, mais je ressens quand même une distance. Je ressens, oui, c'est vraiment ce truc de tant qu'on n'a pas fait ce rendez-vous, ce sera pas officiel. Est-ce que c'est aussi et surtout de la faute de cette histoire de secret? Je sais pas. Et clairement, j'ai pas envie de mettre la pression sur Julie de sortir du secret le plus vite possible pour que je me sente plus à l'aise avec ça. Franchement, c'est pas mon délire, donc ça restera secret tant qu'elle en ressentira le besoin. Je sais pas si elle en ressentira toujours le besoin après le rendez-vous de l'échographie, qui est le 21, donc on a encore 11 jours à attendre. C'est proche. Et en même temps, pas tant que ça. Quand on est dans l'attente et dans ce truc de c'est pas officiel tant qu'on l'a pas fait. Et je sens que quand j'y serai, je sens que je serai sûrement stressé. J'aimerais vraiment avoir un rapport léger à tout ça, innocent et naïf. Parce que j'ai beau ressentir que rien n'est acquis tant qu'on n'a pas bien tout vérifié et que même après, tout au long de la grossesse, ben, rien n'est acquis non plus, hein. Comme on dit si bien, la vie peut être fragile, elle ne tient qu'à un fil. Mais c'est bien beau d'avoir conscience de tout ça. J'ai pas l'impression que ça me préparerait à pouvoir mieux subir ces atrocités qu'on pourrait vivre si jamais ça arrive. Et si ça ne vient pas, j'ai l'impression de me priver de quelque chose en mettant tout ça à distance. Et vraiment, ça me saoule. Et est-ce que le fait de mettre autant d'énergie à ne pas vouloir reproduire ce qui s'est déjà passé avec la première grossesse, ben, ça ne nourrit pas déjà aussi ce truc? Faut que je sorte de ma tête, je pense. Mais c'est souvent le cas. Il faut souvent que je sorte de ma tête. Je mentalise trop. Et c'est encore une fois bien beau de le dire, c'est autre chose de le vivre. Donc, je sais pas. Et peut-être qu'il faut que j'arrête de chercher à essayer de comprendre. Faut juste que je vive les choses, que je me concentre sur ce que je vis à l'instant T, au jour le jour, et ne pas être dans le jugement de mes pensées et de ce que je ressens. Voilà. C'est ce qu'il faut que j'essaie de faire. Pas évident. Sur une note plus légère, cette histoire de secret apporte aussi un peu de rire et de sourire, vu que même si c'est secret, ben, on en parle quand même. Et pour éviter de vendre la mèche, on a essayé de se donner un code. En tout cas, le 21, lorsque vraiment, entre guillemets, on aura officialisé ou non la grossesse en fonction de ce qu'on y verra. Julie, je ne sais pas si elle voudrait continuer à garder le secret à ce moment-là, mais elle était dans l'hésitation de soit annoncer à Charlie la grossesse à ce moment-là, soit à Noël. Je crois qu'elle ne s'est pas encore décidée d'ailleurs. Mais étant donné qu'on est tous les deux assez impatients sur ces choses-là, je pense fortement qu'on va en parler à Charlie après l'échographie. Et forcément, je suis en train de me dire est-ce que Julie va vouloir l'annoncer ensuite après ou pas, mais si on en parle à Charlie, ben la terre entière va le savoir, quoi. Charlie qui raconte toujours notre vie à tout le monde. Forcément, si on en parle à Charlie, ça va pas rester longtemps secret. Donc, à voir si Julie préfère attendre Noël ou pas. Mais du coup, pour aller sur une note un peu plus légère, ce secret, malgré tout, apporte du rire et des sourires, puisque même si c'est secret, ben, on en parle quand même. Mais on veut pas vendre la mèche, donc quand on en parle et qu'on n'est pas que tous les deux, on essaie de se trouver un nom de code. Et du coup, quand on en parle, on dit que c'est, au lieu de dire grossesse, enceinte, etc., on parle de licorne. En référence à ce que nous avait dit Charlie en octobre. Voilà. C'est mignon, c'est rigolo. Moi, j'aime bien. Peut-être qu'on continuera à l'appeler comme ça, même une fois qu'on aura annoncé. Toujours est-il que j'ai hâte au 21, et peut-être que mon prochain vocal, ben, ce sera le 21 novembre. Pas sûr que j'ai d'autres choses d'intéressant à dire avant ça. À moins qu'il se passe des choses particulières qui me donneraient envie de m'exprimer sur le sujet. Mais pour le moment, eh ben, on est dans l'attente et on verra bien le 21 novembre. Nous sommes le mercredi 14 novembre. On a un peu discuté avec Julie hier, bah notamment parce que on était à une semaine de la date de l'écho de datation. Et bah, comme tu l'as pu l'entendre dans mes précédents enregistrements, cette notion de tenir la grossesse secrète de manière un peu indéterminée. Là, Julie ne sait toujours pas quand est-ce qu'elle se sentirait prête de l'annoncer. Et la grande question, en fait, c'est surtout quand l'annoncer à Charlie, vu qu'une fois que Charlie le saura, bah, on le saura. Donc oui, c'est un questionnement en ce moment qui me taraude pas mal, vu que j'en parle dans chaque enregistrement, j'ai l'impression. Et en discutant, du coup, par rapport à la première écho qui approche, je demandais à Julie si elle était pressée, parce que moi, effectivement, je le suis. Et elle me disait qu'elle avait quand même une résistance, une appréhension, qu'elle voulait pas y penser pour éviter de ne pas avoir peur. On est toujours hanté par les deux suspicions de fausse couche qu'il y a eu cet été. Je ressens vraiment le poids qui l'alourdit, qui repose sur elle. Et j'ai l'impression que les rôles se sont inversés entre la première grossesse pour Charlie et maintenant, où j'essaie de plus pas être dans cette même angoisse que j'étais, et en fait, c'est Julie qui est dans cette angoisse-là maintenant. Et la question que je me pose, c'est quand est-ce que cette angoisse peut véritablement arrêter, quoi, parce que même une fois qu'on passe les codes datation, ben, il y a toujours l'échéance du premier trimestre à faire. Et une fois qu'on a passé l'échéance du premier trimestre, ça veut pas dire que il n'y a plus jamais aucun risque d'autres problématiques. Vu mon expérience de l'anxiété parentale, des pensées intrusives, etc., dont on a fait déjà un épisode dessus, je suis très bien placé pour pouvoir dire, même une fois que la grossesse est terminée et que l'enfant est là en bonne santé et tout va bien, l'angoisse et l'appréhension, elle est toujours là. Donc, encore une fois, c'est bien beau de le dire, mais je pense que c'est quand même important de lâcher prise, mais je peux pas le faire à la place de Julie et je peux pas lui mettre la pression de lâcher prise pour elle. J'essaie d'être là pour accueillir cette angoisse qu'elle a et éviter de la nourrir aussi, mais c'est pas évident. On est pile à la moitié du premier trimestre, il me semble, et ce début de premier trimestre ressemble un peu au premier trimestre de Charlie, avec beaucoup de fatigue, beaucoup, beaucoup de fatigue. Donc ça, je m'y attendais un peu. C'est tout à fait normal, mais Julie le vit pas très bien d'avoir cette fatigue un peu constante. Et c'est physiologique, quoi, pour le coup. Là, y a rien à faire, même si elle se repose et tout, bah, elle se sent quand même fatiguée, donc c'est compliqué. Mais ce qui est différent par rapport au premier trimestre de Charlie, c'est qu'il y a les nausées. Du coup, moi, je croise les doigts et me dis, j'espère que c'est bon signe pour la suite et ça veut dire qu'il n'y aura pas d'hyperémérèse gravidique, vu que pour Charlie, ben, il n'y avait pas eu du tout de nausées au premier trimestre et par contre, ça a commencé au deuxième trimestre, beaucoup de vomissements et ça a duré très longtemps. Donc, j'espère que là, c'est bon signe pour la suite. Si les nausées sont déjà là, peut-être qu'il n'y aura pas d'hypérémérèse très vite. On verra. On va croiser les doigts et espérer que c'est le cas. Mais du coup, cette fatigue, cette énorme fatigue et ces nausées font que moralement, c'est le moral de Julie est pas au plus haut point. Ce qui, je pense, joue également avec toute cette histoire où elle n'arrive pas à lâcher prise sur les angoisses autour de la grossesse et de la bonne santé, du fœtus. Donc peut-être que lorsque la fatigue se réduira, que les nausées se calmeront, le moral remontera un peu et du coup, ce sera plus facile de lâcher prise à ce niveau-là, peut-être. Dans tous les cas, encore quelques jours avant l'échographie de datation qui devait marquer un point important dans le parcours. Et on verra à ce moment-là si Julie va en profiter pour l'annoncer à Charlie. On est toujours dans cette hésitation de est-ce qu'on le fait à partir de cet écho de datation ou est-ce qu'on le fait à l'échographie du premier trimestre qui tombera autour de Noël, du coup, il me semble. Donc, on va voir. Dans les prochains jours, ce sur quoi on va se décider. Charlie, nous, elle a longtemps, enfin, je sais pas depuis quand, mais peut-être depuis ses 2 ou 3 ans, donc très tôt, elle a émis cette envie d'être grande sœur, donc c'est plutôt rassurant pour le moment. Maintenant, quand on va lui faire l'annonce, il y a quand même la possibilité que ça change. Donc, on verra bien quelle sera sa réaction à ce moment-là, mais c'est vrai que très hâte de voir comment elle va réagir, ce qu'elle va en dire. J'ai vraiment hâte. J'espère que ce sera bientôt. Mais c'est à moi de gérer mon impatience.
Nous sommes le jour de la première échographie. Ce sera dans 2 heures et demie. On y va. On est très content parce qu'on était très pressé. En même temps, de l'appréhension, ce qui rejoint tout le climat des dernières semaines. Il y a de la peur. Donc, j'espère que cette échographie va apporter les bonnes nouvelles qui vont nous rassurer. La problématique, c'est que, une fois qu'on a fait cette échographie, il y a la deuxième. Il y a la deuxième à prendre en compte, l'échographie du premier trimestre avec tout ce qui est vérification morphologique et tout, qui peut aussi apporter de l'appréhension qu'on n'avait pas du tout eu avec la première grossesse pour Charlie. Et là, je sais pas, étant donné qu'on est déjà dès le début sur un climat d'appréhension, je sais pas ce que ça va donner pour la prochaine. Dans tous les cas, si ça va apporter un peu plus de légèreté, cette échographie de datation, ce serait sympathique. Donc, on va voir ça d'ici 2 heures et demie. Sachant que la veille, il y a eu un peu de frayeur, hein, sinon ce serait pas drôle. Et en même temps, Julie m'a dit qu'elle préférait que ça se passe la veille plutôt que 2 semaines ou 3 semaines avant l'échographie et devoir avoir cette pression dans la tête, dans l'attente en plus. Du coup, cette frayeur, c'est que hier matin, elle s'est réveillée et elle est allée aux toilettes et elle a vu des pertes marronâtres en s'essuyant. Du coup, tout de suite, ça a été le stress. Et moi, je devais aller chez le médecin parce que j'ai une blessure au doigt, donc qui me fait mal. Donc, je suis allé chez le médecin et il a voulu prendre des nouvelles de toute la famille. Donc, je lui ai parlé de ça et il m'a dit non, mais alors quand c'est marron et que c'est en quantité comme ça, c'est pas alarmant. Hein. Faut vraiment s'inquiéter quand c'est rouge et quand c'est en grande quantité. Donc, on s'est un peu rassuré sur ça. Apparemment, ça s'est calmé au cours de la journée et maintenant, on va voir. On va voir à l'échographie tout à l'heure.
Donc, ça y est, on est revenu de cette première échographie et tout va bien. On a entendu le battement de cœur. Ça faisait du bien. Ça faisait du bien de voir ce poids de retirer. Par contre, assez vite, c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on continuait à nous dire que c'était toujours pas gagné, quoi. Parce que Julie a voulu parler du papier de déclaration de grossesse. Tout de suite, la gynéco lui a dit que ça, de toute façon, on le faisait qu'à partir de l'échographie du premier trimestre. qu'on a pu programmer pour le mois prochain. Donc ça, c'est bien se dire qu'on va pas attendre trop longtemps. On a parlé de l'histoire des petits saignements aussi, qui apparemment n'a pas trop alarmé la gynéco non plus. Elle nous a dit de surveiller, et en fonction, ben, il faudra la rappeler si jamais ça continue sur la durée ou si ça devient de plus en plus important. Mais rien d'inquiétant pour le moment. Évidemment, il y a l'histoire de groupe sanguin, donc Julie va devoir faire une injection. Et maintenant, on va voir comment ça va aller pour la suite. Ce qui est cool, c'est que du coup, on s'est décidé de quand même l'annoncer à Charlie à ce moment-là. Notamment parce que, comme Julie est super fatiguée, ben, on voulait qu'elle sache vraiment pourquoi elle était, tenter des trucs, pas lui mentir. Donc c'est fait, ça s'est super bien passé, elle est vraiment trop contente. C'était super touchant tout de suite. Tout de suite, elle a voulu faire des bisous sur le ventre et tout. On a senti qu'elle était vraiment déjà dans la projection, qu'elle est déjà très pressée. C'est trop bien. Donc, ça a été vraiment un super moment globalement. Et maintenant, on va voir ce que nous réserve la prochaine écho, le mois prochain. Nous sommes le 27 novembre, donc ça fait déjà une semaine depuis l'échographie de datation. Comme prévu, le fait de l'avoir dit à Charlie, ben, toutes les personnes qu'elle rencontre sont au courant. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, même une personne qu'elle ne connaît pas, elle a envie d'en parler. Donc voilà, tout le monde le sait. Bon, on savait, hein. On savait qu'en lui disant, on ne pourrait plus garder ça secret du tout. Donc voilà. Et c'est trop mignon parce qu'elle est vraiment hyper investie dès ses premiers instants de grossesse, quoi. C'est incroyable parce que tous les matins, elle nous fait un câlin, elle fait un câlin à sa maman, et elle veut faire un câlin au bébé. Elle dit, je veux faire un câlin au bébé. Elle demande si le bébé va bien. Elle fait des bisous au ventre et tout. C'est dingue. Alors, je sais pas si ça va durer autant, enfin, que ça va durer pendant toute la grossesse. Est-ce qu'elle va finir par se lasser? Je sais pas, parce que là, dans le trio, que ce soit sa mère, que ce soit moi ou que ce soit elle, on est quand même trois impatients en règle générale. Donc là, 9 mois, enfin un peu moins, vu qu'on est quand même à 2 mois de grossesse déjà, mais plusieurs mois à être dans l'attente. Je ne sais pas si elle sera autant dans le positif, autant investie dans le truc jusqu'à la fin. Je pense que la durée de cette grossesse, ça lui reste un peu flou. Elle pose énormément de questions, donc c'est bien aussi. Elle aimerait évidemment que ça se termine vite pour le rencontrer, donc c'est trop bien. Elle se projette dans son rôle de grande sœur. Alors, je veux pas trop se mettre la pression là-dessus, mais ayant vécu un rôle de grand frère ou assez tôt, je saurais pas dire à quel âge vraiment c'est arrivé, mais assez tôt, j'ai été parentifié à être un peu considéré comme le troisième parent. Et avoir un rôle qui n'est pas celui du grand frère, mais plus un rôle de deuxième papa, plus ou moins. Et j'ai pas envie, voilà. Je veux qu'elle puisse avoir son rôle de grande sœur comme elle le souhaite, mais je ne voudrais pas tomber dans une responsabilisation qui. Je veux pas reproduire le schéma, quoi, tout simplement. Et en même temps, je sais que si ça devient une obsession, bah, ça peut être aussi, malheureusement, le moyen de le faire sans s'en rendre compte. Donc, que ça devienne contre-productif. Donc sans qu'on se mette la pression, sans que j'y pense trop. Faire quand même attention de, enfin voilà, je sais pas, trouver un cadre qui fait que elle peut vivre son rôle de grande sœur comme elle l'entend, mais que ça tombe pas trop dans la responsabilisation. Et évidemment, elle est déjà dans ce truc de bah, je pourrais le pousser dans sa poussette, je pourrais lui donner le biberon et tout. Donc ouais, va falloir trouver des trucs pour que elle finisse pas par être une petite maman. C'est pas l'idée. Donc ouais, ça va être un peu complexe, mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Ce qui est des proches, pour le moment, ça se passe bien. Étant donné que c'est Charlie souvent qui annonce le truc avant même que nous on peut en parler, il y a un côté un peu bizarre. C'est pas du tout comme avec la première grossesse où les gens sautent de joie et tout ça, tu vois. Il y a un truc de est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous dire des histoires et tout, tu vois? Donc, au début, ils prennent ça à la rigolade, tu vois. Et après, quand on confirme que c'est vrai,
bah, il n'y a pas le même effet d'annonce. On a l'impression que c'est un peu neutre. C'est ah, ok, c'est cool. Tu vois. Donc c'est un peu bizarre, mais bon. On ne s'en plaint pas plus que ça. On n'a pas forcément envie d'être le centre de l'attention de toute façon. Donc c'est ok. L'attente pour l'échographie du premier trimestre, ça va être très long. Hein. Encore un mois, le 22 décembre, donc vraiment un mois, un jour près pour l'avoir, cette échographie. Il va falloir vraiment être patient. Surtout que, ouais, j'en avais parlé dans mon dernier enregistrement la semaine dernière, mais le fait qu'elle nous ait dit oui, j'attends cette échographie pour faire la déclaration de grossesse. C'était pas l'idée non plus d'amener Charlie à ce moment-là, mais je sais plus ce qu'on s'est dit. On a pris le rendez-vous, on a dit que la date nous convenait, etc. Qu'il fallait juste. Je pense qu'on parlait entre nous, tu vois. C'était pas à l'adresse du médecin, mais on était en train de réfléchir à comment on allait faire pour Charlie, qui appelait, etc. Et du coup, la gynéco a renchéri en disant oui, vaut mieux éviter que les enfants soient là pendant l'échographie et tout. Donc voilà, en nous rajoutant un peu la pression qui était déjà là jusqu'à l'échographie de datation sur le bon déroulement de cette grossesse, sur la santé du bébé et tout. Et même si voilà, je le sais, hein, de toute façon, je l'ai déjà répété, mais on n'est jamais sorti d'affaire. Enfin, si vraiment on se focus sur tous les risques qui peut arriver pendant une grossesse, on n'est jamais sorti d'affaire jusqu'à la fin en fait. Il y a toujours des risques. Alors certes, au niveau statistique, ben, plus ça avance et moins il y en a, mais il y en aura toujours. Donc je peux pas. Enfin, ça sert absolument à rien. Ce n'est qu'à ne se faire du mal que de se projeter en pensant à ces risques. Je repense à ce podcast où cette maman qui a vécu un deuil périnatal disait que quoi qu'il arrive, en fait, qu'on soit dans l'anxiété, qu'on soit dans la panique. Quoi qu'il arrive, si un malheur doit arriver, bah, il va arriver. Et l'anxiété, la panique, bah, n'empêchera pas le malheur d'arriver. Donc, de toute façon, qu'on soit dans l'anxiété ou pas, si le malheur est là, il est là et on devra faire avec, comme on pourra à ce moment-là. Je ne sais pas comment on gérera, mais on devra le gérer. Donc, autant apprécier tous les moments que l'on peut apprécier, gâcher, entre guillemets, avec de l'angoisse, même si, donc, je l'ai dit 40 000 fois, c'est bien beau de se dire ça, encore faut-il l'incarner. Mais ouais, je pense que c'est quand même bien d'avoir des petits mantras à se répéter comme ça. Donc c'est pas plus mal, hein. Même si c'est pas magique, je pense que ça ne fait pas mal, ça ne peut pas faire de mal de se le répéter. Et voilà, on verra bien ce qui nous attend pour la suite. Apparemment, là, ça fait 2 jours que Julie a un peu moins de nausées. La fatigue est toujours là, mais la nausée, au moins, ça a l'air de se calmer. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question. Mais du coup, il y a un peu de positif. Alors, forcément, forcément, elle est en train de se dire, est-ce que c'est mauvais signe si j'ai plus de nausées? Donc j'essaie de lui dire que non, c'est pas ça veut rien dire quoi. Il y a des personnes qui ont zéro nausée, il y a des personnes qui ont la nausée que quelques semaines, des personnes qui ont la nausée que le premier mois. Enfin, il y a pas de règle quoi. Donc il y a des personnes qui a la nausée jusqu'à la fin de la grossesse. Donc il y a absolument pas de règle sur ça et je ne pense pas que ce soit mauvais signe, bon signe d'avoir la nausée ou non. Donc il faut essayer de se rassurer, d'être patient et de kiffer ce qui se passe avec autant de légèreté qu'on peut. Et on verra ce que nous réservent les prochains jours.
La suite de mon journal de bord audio, ce sera dans le deuxième épisode de Mémoire, dans lequel je vais partager toutes mes introspections durant la période qui a suivi la perte de la grossesse début décembre.